Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Dans l'évangile selon Luc, la gestion, la bonne gestion, gestion du matériel selon Dieu. Lorsqu'on en a un peu plus, ça s'appelle la richesse. Alors, nous avons parlé d'un certain nombre des riches selon Luc. Le premier, c'est, nous l'avons appelé le riche de Lazare. Nous avons dit pourquoi les gens qui ont mal géré, on ne donne pas leur nom dans la Bible parce qu'ils vont en enfer. On donne le nom généralement de ceux qui vont au ciel. Vous voyez, Lazare, il n'était pas riche, il était pauvre. Mais on donne son nom parce que la Bible nous dit que quand il est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Alors, ce riche-là, il n'a pas tenu compte de Lazare et des pauvres qui étaient autour de lui. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans les tourments en enfer. Mauvais gestionnaire. Oh, pour les hommes, il était un très bon gestionnaire parce qu'il a laissé l'héritage à ses cinq frères. Il est mort, il a laissé des comptes au positif. Dans ses affaires, ses bilans étaient positifs. Mais parce qu'il n'a pas exercé de la miséricorde envers les pauvres, quand il est mort, il est allé en enfer. C'était un mauvais gestionnaire selon les normes de Dieu. Et puis nous avons aussi parlé, toujours selon Luc, l'histoire de ce jeune homme qui est venu poser la question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et ce jeune homme qui est très impressionnant, c'est un jeune homme riche, mais un jeune homme de l'Église. La preuve, il a observé depuis sa jeunesse tous les commandements. Ah, ses parents l'avaient instruit à obéir Dieu, à aimer Dieu. C'est peut-être un fils de pasteur, un fils de diacre, un fils de choriste. Nous avons pas mal de choristes qui ont maintenant des enfants et qui viennent à l'Église. Bravo. Mais lorsque Jésus lui a dit, maintenant, tu es riche, va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, viens maintenant et suis-moi. La Bible nous dit que ce jeune homme est devenu très triste. Et il est parti. Jésus a tiré une conclusion étonnante. Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Nous croyons que Jésus voulait dire que ce riche-là est aussi un mauvais gestionnaire. Il n'est pas sauvé. Probablement, il est parti en enfer aussi. C'est pour ça qu'on ne donne pas non plus son nom. Et puis, dimanche passé, on nous a parlé d'un autre riche, toujours selon Luc. Vous voyez, Luc, c'est un médecin, c'est un intellectuel qui analyse les paroles. Vous voyez, il ne raconte pas tout ce que Jésus a fait, mais il fait un tri pour son excellence Théophile, pour qui il a écrit ses écrits, pour que cette excellence comprenne que dans ses fonctions, on ne sait pas s'il était ambassadeur ou ministre, en tout cas c'était un homme politiquement élevé. Pour que Théophile, son excellence Théophile, comprenne que dans l'exercice de ses fonctions, c'est une grande bénédiction, mais
Il ne doit pas oublier les pauvres.
Zachée. Vous voyez, on donne son nom. Zachée, un publicain. En d'autres termes, si c'était de nos jours, on l'appellerait un païen, sans foi ni loi. Et dans l'exercice de ses fonctions, il a volé, il a dribblé, et puis il était heureux comme ça. Il était riche, connu dans la société, Monsieur Zachée. Je ne sais pas si c'est son nom ou son prénom. Je suppose que c'est son nom de famille. Alors, Zachée décide par curiosité de voir Jésus. Il oublie les normes de son rang. Il court publiquement. Il monte sur un sycomore et Jésus le voit, l'appelle. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que nous avons vu dimanche passé, cet homme riche, quand il est devant le Seigneur, il n'a pas de besoin. Il n'est pas malade, il n'a pas besoin de travail, il n'a même pas besoin de séjour parce qu'il était dans son pays. Mais il voulait simplement le voir. Et puis, quand il se lève devant Jésus, il dit à Jésus, « Moi, Zachée, je suis riche, mais je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Et deuxièmement, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui paye 4 fois. Et voilà la conclusion. Donc, il ne confesse pas ses péchés, il n'est pas quelqu'un d'église, comme vous en doutez bien, c'est un escroc. Mais devant Jésus, quand il déclare cela, Jésus proclame, pas à la demande de Zachée. Jésus constate, il est Dieu, il voit au fond du cœur, il dit, cet homme, il proclame, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et c'est pourquoi le nom de Zachée est écrit, parce que le salut est entré dans sa maison. Ça dit que si Zachée mourait, il va au ciel. Alors, vous voyez que le chemin pour le ciel, il est un peu compliqué pour les uns et facile pour les autres. Alors, nous nous sommes posé la question, que sert toutes nos confessions de foi nos récitations des versets, vous savez, moi je suis membre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc nous avons appris beaucoup de versets par cœur. Et vous savez quoi? Ancien président des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone pendant 10 ans, j'ai appris à étudier la Bible et à l'analyser. Et puis, pasteur, pentecôtiste, évangélique et pentecôtiste. Ah, avec tout ce que cela s'ensuit. Est-ce que tout cela sert à quelque chose si mon cœur est endurci vis-à-vis des nécessiteux et des pauvres? Vous comprenez, hein? 3 choses, nous dit Luc, qui sont exigées d'un chrétien. La première chose, c'est que le chrétien comprenne que là où il est, il représente Christ. Il est directeur d'une entreprise. Ça veut dire que si Jésus était vivant, lui, il serait directeur là-bas. Il est là pour représenter Christ. Il est étudiant dans une faculté, même de théologie. Il représente Christ. C'est ce que la Bible appelle faire les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes ambassadeurs. Première fonction, n'oublions pas. Je suis là pour représenter Christ. S'il était là, il serait là. Il serait là où je suis. La deuxième chose, c'est que dans la vie dans laquelle je suis, j'ai des voisins, j'ai des prochains, et qui peuvent être en difficulté. Ils peuvent être battus, ils peuvent être pauvres, ils peuvent avoir faim. J'ai des voisins. La Bible les appelle les prochains. La deuxième chose, c'est que le chrétien doit faire, c'est de ne pas fermer les yeux à son prochain qui est dans le besoin. Le bon samaritain. La troisième chose, c'est que le chrétien, Il doit être au pied du Seigneur pour l'adorer et pour l'écouter. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Marthe, Marthe, tu te tracasses, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la part la plus importante qui ne lui sera pas ôtée. Simplement parce qu'elle était au pied du Seigneur. Troisième chose, adorateur, qui écoute le Seigneur. Nous sommes en train de voir justement cette deuxième fonction du prochain. Et nous avons vu que la richesse est toujours fonction, c'est une valeur relative, n'est-ce pas? Je vous ai dit que pour un Africain, par exemple, quand il achète une voiture, c'est un riche, n'est-ce pas? Oui, tes parents apprennent que tu as une voiture, c'est fini. Oh, mon fils est riche, ma fille est riche. Donc, la richesse est une fonction, une notion relative. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons gérer cette richesse-là. Luc, chapitre 12. Je vous ai dit que à la fin de cette série de messages, vous serez spécialiste dans l'évangile selon Luc. C'est dommage que le département des ados n'a pas organisé un concours pour les ados pour gagner le GSM dans l'évangile selon Luc. Ce serait facile. Mais bon, là nous allions tous participer, n'est-ce pas? Évangile selon Luc, chapitre 12, nous lirons les versets 15 à 21. N'est-ce pas l'histoire de cet autre riche? Luc 12, 15, nous lisons ensemble. Puis, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui ce sera? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Un autre riche. Voyez, cette histoire est tirée d'un contexte pour ceux qui étaient là à notre réunion de Sainte-Seine le vendredi. Le contexte, c'est que quand vous regardez au chapitre 12, verset 1, c'est que Jésus, donc, sur ses entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, etc., etc. Donc, quel contexte? C'est qu'il y a une foule tellement immense autour du Seigneur que les gens sont en train de s'écraser les uns sur les autres. Et Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Et puis, tout à coup, au milieu de la foule, quelqu'un, un peu mal élevé, par exemple, il dit, « Maître, Rabbi, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Si c'est vraiment mal à propos, hein. Alors, Jésus s'arrête un instant. Un commentateur disait que, en fait, Jésus est interpellé par cette personne parce que cette personne croit que Jésus est un rabbi, un enseignant. Or, parmi les fonctions d'un rabbi, d'un rabbin, d'un rabbin, c'est d'aider ceux qui ont des différends familiaux à les régler. Et là, il y avait un problème de partage de l'héritage. Donc, c'était un travail normal de rabbin, d'un rabbin. Mais, curieusement, Jésus ne résout pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que il réalise que et celui qui demande et celui qui s'est approprié de cet héritage, ils ont tous un problème, c'est le problème d'égoïsme dans leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus ne veut pas donner une solution temporaire, il veut s'attaquer à la racine du problème, l'égoïsme individuel qui dirige le cœur des uns et des autres. Et le verset 15 par lequel nous avons commencé la lecture nous parle des dangers de l'avarice. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est-à-dire, soyez préservés de l'avarice. Entourez votre cœur et votre système de pensée d'une protection contre l'avarice. En d'autres termes, si vous le pouvez, fuyez l'avarice comme on fuit la peste. Parce que s'il y a une chose qui va t'empêcher d'arriver dans le royaume des cieux, pour toi, ce n'est peut-être pas ce que les autres font, c'est peut-être le cœur qui est avare. Alors là, il annonce un des principes très importants dans le Nouveau Testament. Car, dit-il, vous voyez, quand il y a car, c'est une conjonction de, comment on appelle ça, de coordination. Coordination. Là, c'est la grammaire. Ça veut dire que ce qui va suivre explique le pourquoi de ce qui est dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Je lisais certaines versions américaines qui disent « La valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Vous voyez, ça nous déplace des normes que nous avons, où nous pensons que nous avons de la valeur parce que nous avons 3 voitures, 10 maisons, 150 costumes, 1500 paires de chaussures, et puis un compte, etc. La Bible nous dit que ce n'est pas ça qui donne la valeur à quelqu'un. Vous savez quoi? La valeur d'un homme, ce n'est pas les biens, mais c'est son cœur. Et c'est ça qu'il essaie de démontrer là, comme nous allons le voir à la fin de ce message. La valeur, notre valeur, c'est notre cœur. Alors, donc, il raconte cette parabole d'un homme riche. Verset 16. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. N'oublions pas que Jésus s'adresse à un public des Juifs. Cet homme riche dont il est question, c'est un Juif qui a joui d'une grande bénédiction. Lisons un peu dans Deutéronome chapitre 28 pour voir qu'effectivement, Dieu a promis aux Juifs la bénédiction. 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Notons entre parenthèses, en passant, que pour le juif, dans la compréhension juive de la bénédiction, c'est une conséquence d'obéissance au commandement de Dieu. Comme le jeune homme riche qui est venu poser la question à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit, tu connais la loi, et il décrit la loi. Le jeune dit, j'ai tout observé, et c'est pourquoi je suis riche. Dieu m'a béni parce que j'obéis à sa loi. Pour un juif qui obéit à la loi, il a les promesses. Les promesses de la vie matérielle présente. Et voici
Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au verset 11, l'Éternel te comblera de bien, multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voyez, c'est formidable. Et quand vous lisez cette affaire, cet homme a tellement été béni qu'il se dit, mais pauvre de moi, malheureux, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour mettre mes costumes dans ma garde-robe. J'ai plus de place pour mettre mes chaussures dans mon armoire à chaussures. J'ai plus de place dans mon garage pour mettre des voitures tellement j'en ai. J'ai plus de place pour mettre la nourriture dans mon congélateur. J'ai plus de passer des marmites pour... J'ai plus de place. Quelle bénédiction! Ça vient de l'Éternel. En tout cas pour les Juifs. Mais la parole nous dit que cet homme était un avare, n'est-ce pas? Le dictionnaire biblique Emmaüs. Voici comment le dictionnaire biblique définit l'avarice. L'avarice est une recherche passionnée de biens et le maintien anxieux de ce que l'on possède. Non seulement on recherche passionnément, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Il faut voir comment les gens aiment leur voiture, n'est-ce pas? Je crois que lorsque j'avais enseigné sur les valeurs de la famille, j'avais dit que si votre enfant casse votre porcelaine Van Stahl, l'enfant a plus de valeur que la porcelaine Van Stahl. Mais l'avare, casser sa porcelaine, c'est comme l'enfoncer un couteau dans son cœur. Parce que on recherche, c'est des biens qu'on a recherché avec passion. Et le maintien anxieux de ce que l'on possède. Donc, on a tellement de l'anxiété que donner ça, on ne peut pas. Parce que ça nous enlace, ça nous attache, ça nous lie. Tiens, j'aimerais bien que les gens qui font les délivrances là viennent de temps en temps en Europe pour délivrer les gens et briser les liens de matérialisme. Vous voyez, il n'y a pas que les liens de la sorcellerie. Il y a les liens de matérialisme. Il y a des gens qui ont besoin d'un bon coup de délivrance. Et pour certains, jusqu'à ce que vomissement s'en suive. Mais anxieux. Alors, si vous êtes habitué à la littérature américaine, il y a un écrivain que j'ai découvert dans mon adolescence, il s'appelle Mark Twain. Mark Twain a écrit un roman qui s'appelle Tom Sawyer. Vous vous rappelez, hein? Voilà ce que Mark Twain a défini. Comment il définit la civilisation actuelle? La civilisation actuelle est une multiplication sans limite des nécessités non nécessaires. Je répète, c'est ça la civilisation. On s'accumule, on accumule. C'est une multiplication sans limite des nécessités non nécessaires. Nous pensons que ce sont des nécessités, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et on achète, et on achète, et on achète.
Et si on n'achète pas, on va mourir. Non, parce que ce qu'on a est suffisant. Simplement parce qu'on ne veut pas donner aux autres.
Vous savez que certaines personnes, pour enseigner à leurs enfants qu'il y en a qui souffrent dans le monde, les amènent en Afrique, je parle ici des Africains, et les mettent en contact avec leurs cousins, tantes, oncles, la famille quoi, hein, les enfants de leurs vrais frères, comme on dit en africain. Donc, les enfants, les grands frères de papa, de la grande sœur de maman, de la petite sœur. Et alors, on les lâche là-bas pendant une semaine. Qu'ils apprennent à manger ensemble. À la fin de la semaine, certains se rendent compte que la semoule ici, il y en a qui se chamaillent pour l'avoir. Que la viande, c'est pas un luxe. Hein. Comme on dit, respire un peu, juste un peu. Mais vous savez que nous pêchons en Occident ici fort, hein, des poubelles, des chrétiens remplis de gros morceaux comme ça de viande. Cette multiplication sans limite des nécessités non nécessaires peut produire un sens faux de la sécurité. Voici une déclaration. Les personnes qui trouvent leur satisfaction uniquement dans les choses que l'argent peut acheter courent un grand danger de perdre les choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous savez que l'argent n'achète pas tout. Hein. Donc si notre préoccupation, notre satisfaction. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment la satisfaction? Quand tu as envie d'acheter une voiture, tu rêves de la voiture, tu l'achètes, tu roules 2-3 jours, la joie est finie. N'est-ce pas? Ah, quand je veux, tu passes, tu vois, j'ai été avec un frère là. Quand il voit à la vitrine un costume, comme on les habille là, on entre, il dit au vendeur, tu me donnes tel qu'il est là. Donc ça veut dire veste, chemise, cravate, chaussures, tout, comme il est là. Et puis, tu mets ça, n'est-ce pas? Ben, je sais pas, il y a une fête de mariage, que sais-je encore, ou un dimanche. Et puis, so what? So what? Tu arrives là, et puis quoi? Non! Voyez, nous pensons que ces choses-là nous apportent une satisfaction. Non, je voudrais vous dire qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et ces choses-là, hein, que l'argent ne peut pas acheter, c'est ça qui nous donne une vraie satisfaction. Quand j'étais étudiant, j'avais une amie que je voulais épouser. Ben écoute, j'étais jeune, célibataire, vous voulez quoi? Alors, maintenant, et puis, je rencontre le Seigneur, parce que là, on était, vous voyez, hein, tous les soirs. Et puis, je rencontre le Seigneur. Oh! Je ne sais pas si vous avez déjà été, vous, étudiants, dans le GBU, groupe biblique universitaire. Nous, nous avons réunis 2 fois par semaine, mercredi soir, études bibliques. Ce n'est pas quelqu'un qui passe devant, qui prêche. Non, vous-même, vous analysez des versets, puis tout ça. Puis tout à coup, j'en ai bien là reçu. Donc, pas moyen de s'échapper. Je dois tout renoncer et abandonner. Donc, je renonce et j'abandonne. Maintenant, j'appelle la fille, je lui dis, écoute, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Je dis, c'est que je ne t'épouse plus. Oh, mais pourquoi? Ah ben, parce que j'ai trouvé Jésus. Ça alors? Mais, il a dit quoi? Je dis non, c'est parce que hein, quand je suis dans une réunion de prière, le bonheur que je reçois n'a rien à comparable avec le petit bonheur que j'avais dans les concerts. Oh. Oui, parce que je lui dis, quand il y aura un grand concert, à l'époque, quand nous étions jeunes, c'était des gens comme James Brown, Rufus Thomas, Jackson 5, etc., qui passaient là. Quand un de ces musiciens va venir, et que ce jour-là, il y a une veillée de prière, moi, j'irai à la veillée de prière. Elle me dit, ok, d'accord, on se sépare. Merci Seigneur, jusqu'à ce jour. Ce que je voulais dire, c'est que il y a de ce bonheur-là que l'argent ne peut pas acheter, que nous obtenons dans un moment de prière, que nous obtenons lorsque Dieu nous parle dans sa parole. Et la paix que Dieu nous donne n'est pas négociable. Et puis, nous attendons la vie éternelle qui se manifestera. Donc, le tout n'est pas seulement d'argent. Cette parabole est une parabole d'un riche, trop auto-centré, c'est-à-dire centré sur lui-même. Et dans cette brève description de ses pensées, le Seigneur démontre combien l'avarice et l'égoïsme poussent la personne à utiliser le pronom personnel et l'adjectif possessif. Je, ma, mais. Nous allons revoir rapidement. Verset 17. Et il raisonnait. Nous sommes dans Luc 12, n'est-ce pas? Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour tenir ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Quelle expression plus excellente de l'égoïsme, de l'avare auto-centré sur la satisfaction de ses biens. Regardez à la fin, au verset 19, mon âme. 1. Repose-toi. 2. Mange. 3. Bois. 4. Réjouis-toi. Et les autres, c'est pas mon problème. Et ceux qui souffrent à côté de toi, non, c'est pas mon problème. Pourvu que mon âme mange, boive. En matière de boire, dans certains pays d'Afrique, lorsque quelqu'un a juste un peu d'argent, un petit poste, il ne réfléchit plus. Pourquoi? Parce qu'il boit tellement l'alcool qu'il passe toutes les journées et toutes les nuits ivre. C'est comme si certains se disent, mon âme mange, boit, et puis réjouis-toi. Vous savez comment on appelle certains gens, certains habitants de certains pays d'Afrique, les jouisseurs. C'est tout ce qu'ils savent faire, n'est-ce pas? Il y en a un qu'on appelle BMW, Beer, Women, et quoi? Donc c'est juste danser, hein? Music. Music, c'est porter cravate, poster costume, cravate et danser. Réjouis-toi. Puis c'est tout ce qu'ils font. Vous savez que quand mon pays, la République démocratique du Congo, était dans la prospérité, je connaissais des personnes, c'est presque tous les travailleurs, tous les soirs, mais tous les soirs, ils étaient dans les bistrots, les boîtes de nuit, dansant jusqu'au matin. Tous les soirs.
Il y en a un, quand il rentre à la maison, vous êtes obligé de le renvoyer là-bas. Parce que tellement il est de mauvaise humeur, en disant, oh, 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 retourne, va danser. Réjouis-toi. Et les autres, tant pis pour eux.
Hier, je suivais CNN. On parlait du Nigeria.
Cinquième producteur mondial
du pétrole.
Et on a montré, n'est-ce pas, une rivière là. Et des maisons tout au long de la rivière.
Incroyable.
Une misère non descriptible.
Mais dites-moi,
pourquoi les Arabes qui ont le pétrole développent leur pays et les Africains qui ont le pétrole ne développent pas leur pays? C'est normal ça. Cinquième producteur mondial. Vous savez, il y a eu un temps où mon pays était quatrième producteur du cuivre mondial. 450 000 tonnes de cuivre produits par an. Et à l'époque, la consommation mondiale du cobalt, c'était 20 000 tonnes de cobalt par an. Mon pays en produisait 16 000. Pas une année. Des années. Et c'est le moment où le pays a traversé la période la plus sombre économiquement. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, rien du tout. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal.
Curieusement, les Africains nous disent que l'Afrique n'est plus un continent de ténèbres parce que l'évangile y est prêché, les églises sont remplies. Il y a quel évangile alors?
Quel évangile?
L'attention de cette personne. Ah, on n'a pas compté, hein? Je. Il y a combien de fois je?
Combien?
13 fois.
Sur 3 versets.
Ma.
Mais.
Possessif. Premièrement, l'attention de cette personne était totalement tournée vers
lui-même.
Nous avons noté que cet homme était béni matériellement. J'allais dire scandaleusement béni, mais n'a pas un seul instant glorifié Dieu pour sa bénédiction.
Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8.
Verset 10 et les suivants. Nous lisons ensemble.
Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui.
Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, mon acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Pas une seule fois, il bénit le Seigneur.
N'est-ce pas que nous ne sommes pas loin de cela?
Cet homme appelle le fruit que lui produit la terre, mais ma récolte, mes biens. Voyez que l'égoïsme nous fait même oublier Dieu. Il n'a pensé qu'à soi-même dans cette abondance. Il a pensé à son aisance, il a pensé à son confort. Il n'a pas pensé un seul instant
d'aider les autres dans le besoin. Aider les autres dans les besoins. Il a oublié qu'il vivait dans un monde où la majorité des personnes ont des besoins, même du strict nécessaire. Est-ce que vous pensez que nous devons aller loin? Peut-être que celui qui est à côté de toi, il ne sait même pas comment payer son bus. 1,40 €, il n'a pas. Et qu'est-ce que nous faisons? Toujours des projets. Ah, vraiment! Avec cette gratification, je veux faire ceci, je veux faire cela, j'ai beaucoup gagné, merci Seigneur. Et puis le merci Seigneur que nous disons, c'est vraiment une formule de politesse, puis c'est tout. Ça ne vient pas du cœur. Il y a des nécessités. Cet homme a oublié. Il a pensé que le monde commence par lui et se termine par lui. Le reste, tant pis. Je suis en train de me demander si dans nos budgets, pour ceux qui font le budget par mois, nous avons même une petite rubrique de dire pour les nécessités de mes 1 500 € que je touche, je donne même 20 €. Si nous avions des budgets comme ça, eh bien, dès qu'on dit on va construire un hôpital
à Brazzaville,
si chacun donne simplement ce qu'il met de côté, pour les nécessités. En une récolte, on n'a même pas besoin d'insister. Dès que cela dit, bon, ce n'est pas mon argent, j'ai mis ça de côté pour les nécessités. Allez à Brazzaville. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous avons, nous l'engloutissons. Et vous savez que des études ont démontré qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de grosses églises très riches, 1%. Des revenus de toutes les églises américaines, c'est ça qui va dans le monde pour les missions. 1%. C'est normal, ça. Non, c'est pas normal. Mais est-ce que nous nous faisons mieux? J'ai demandé à nos différents pasteurs, nous avons maintenant plus de 20 églises ici en Belgique, de réserver simplement une recette par mois, un vendredi, ou n'importe quel type de semaine, une recette par mois, de mettre ça de côté pour que nous puissions envoyer en terrain missionnaire. Il n'y a que 2 pauvres églises qui venaient de commencer, qui ont fait ça pendant 1 an et puis ils ont arrêté. C'est incroyable. Puis j'ai réuni les pasteurs, j'ai dit, mais la mission, non, ça entre par-ci, ça sort par-là. La mission, c'est quoi? La mission, c'est tout simplement le fait que nous préoccupons de l'autre. La mission, c'est pour dire que le malheur de l'autre nous concerne. Cet homme a dit, ah, mon petit, tu vas bien te réjouir. Ah ben, le deuxième et dernier point, comme vous pouvez constater, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, c'est le riche qui se parle en lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que sa richesse, c'est son Dieu. Il adore son argent, il adore ses biens, il adore ses voitures, il adore sa maison, il adore ses chaussures, il adore ses costumes, il adore ses bijoux. Il parle à lui-même, il adore ses comptes en banque. Mais ce qu'il a oublié, c'est que qu'on adore Dieu ou qu'on ne l'adore pas, il est là et il nous regarde. Et il nous observe. Jésus a terminé cette histoire d'une façon impressionnamment triste. Donc la deuxième chose, le tour de Dieu maintenant de parler. Oh, il y en a qui attendent que Dieu... Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Vous voulez entendre tout ce que Dieu a dit sur toi? Ouais? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que tout ce que nous faisons, c'est de demander, de demander, de demander, de demander. Mais dans les projets de ce que nous demandons, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que ton Dieu là a dit sur moi? Il y en a qui m'appellent de loin. Pasteur, tu as prié pour moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, écoute bien. Heureusement que Dieu se tait. Hein? Encore. Il se tait encore, mais il dira. Le tour de Dieu. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemander. Dieu lui dit que la nuit-là, il doit mourir. Et puis Dieu lui dit qu'il ne s'intéresse pas à son argent, au bien. Je pense qu'il avait récolté les bonnes tomates et des beaux maïs. On dit un maïs sur une maïs. Un maïs. De beaux maïs et de belles arachides. Pommes de terre, gros comme ça. C'était beau, hein? Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai regardé ta récolte, elle est vraiment belle. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. Ton âme, ton âme, ton âme. Est-ce que tu l'as préparée? Est-ce que tu l'as ensemencée? Est-ce que tu l'as nettoyée? Est-ce que tu l'as lavée? Est-ce que tu l'as... Tu as apprêté ton âme. Non. Il ne l'avait pas apprêté. Il dit, alors tu es insensé. Parce que cette nuit, Dieu va te demander cette âme-là. Alors, il lui pose la question. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? C'est pour dire, tu n'as pas voulu donner ça aux autres. Mais de gré ou de force, tu vas les donner. Les autres s'en serviront. Ce n'est peut-être pas ce que toi tu auras choisi. Dieu l'appelle insensé parce que dans les soins qu'il a pris, dans les précautions qu'il a pris pour détruire les greniers, pour bâtir les nouveaux greniers, pour tout arranger dans tout ce qu'il a fait, il n'est pas question de son âme. Alors, je voudrais me permettre de vous poser cette question. Si tu étais à sa place, comment tu allais répondre? Seigneur, mon âme est prête, tu peux la prendre. D'autre façon, que tu le veuilles ou non, il la prend. Marc 8. Voyez ce verset. C'est un vieux verset d'évangélisation. Là, je suis en train de faire une croisade d'évangélisation. Marc 8, versets 36 et 37. C'est probablement notre dernier texte. Nous lisons ensemble. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus dit, voyez, c'est quelqu'un qui a traité sa vie à la légère. Il a pensé au manger, il a pensé au boire, il a pensé à la jouissance, mais il n'a pas pensé à son âme. Peut-être que c'est un très bon gestionnaire, il a fait même l'étude de la gestion des stocks, n'est-ce pas? Il a bien géré les stocks, mais il n'a pas préparé son âme. Que sert-il à un homme de gagner même le gros lot de la loterie nationale? C'est combien de millions maintenant? 7. Vous en connaissez le montant? Waouh! Ça c'est bien! Même si l'on gagnait au loto, tiercé, quarté, quinté. Et puis, c'est fini. Et même si on allait là à la poste, on gratte pour gagner. C'est quoi encore qu'on gratte à la poste là? Subito, j'allais dire stabilo. Tout ça c'est bien. Mais notre âme doit être soignée, préparé pour le Seigneur. Et c'est ce que Zachée a fait. C'est ce que Zachée a fait. Il a dit non, 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 j'ai eu beaucoup de biens. La moitié, allez, hop, sortez de ma maison. Vous allez aux pauvres. Jésus dit, un homme intelligent, le salut est entré dans cette maison. Qu'est-ce que nous faisons de notre âme? Vous voyez que le matériel que nous avons peut conditionner notre salut. Le matériel, peut conditionner notre salut dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Nous voulons être intelligents pour préparer notre âme quand Dieu décide de nous le demander. Ok? Ça veut dire que dans ce que tu gagnes, pense à Dieu, pense aux pauvres. Verset 21, il conclut, il en est ainsi, nous sommes Luc 12, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il vaut mieux aussi être riche pour Dieu. Dieu ne décrit pas la richesse, mais c'est une valeur qu'on doit soumettre à la Seigneurie de Dieu. Alors, dans notre prière pour la bénédiction, demandons à Dieu de nous donner la sagesse de bien la gérer. Et le jour que tu seras riche, pense aux pauvres.